Europe 1.
L'abus de faiblesse, il intervient lorsqu'une personne profite de la vulnérabilité d'une autre dans le but d'en tirer un avantage contraire à ses intérêts. L'abus de faiblesse peut être physique, psychique ou encore financier. Dans certains cas, ces manipulations peuvent plonger les victimes dans un état d'emprise face à leur bourreau, altérant ainsi leur discernement et leur capacité à agir. Comment se libérer de la manipulation mentale ? Comment reprendre une vie après avoir passé des mois sous emprise ? Comment faire à nouveau confiance lorsqu'on a été abusé ? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Ludivine. Cette championne de roller artistique s'est retrouvée très jeune sous l'emprise sexuelle de son coach. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus.
Bonjour Ludivine.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va, merci.
Merci de nous accueillir pendant ces quelques jours ici chez vous, à Fougères. Vous avez le courage aujourd'hui, à 21 ans, d'avoir dénoncé d'abord votre entraîneur de roller artistique qui a abusé de vous. Hein. Ça a commencé quand, en fait, avec cet homme ?
Alors, je l'ai connu très tôt, cet homme. J'avais 7-8 ans.
Ouais.
Je faisais déjà des entraînements et des stages avec lui, puisque c'était le directeur des équipes de France, aussi sélectionneur. Donc, il passait dans toutes les régions. C'est comme ça que je le connais. Et puis, je monte sur Paris à l'âge de 12 ans.
Ouais.
Et les premières agressions sexuelles ont lieu, les premiers viols aussi. Et le premier viol pénien, du coup... Et le jour de l'anniversaire de mes 13 ans.
Est-ce que ça a joué, en fait, le fait qu'il occupe ce poste dans un peu la fascination, hein, on verra, que vous aviez pour cet homme ?
Bien sûr, sa position, elle est très importante dans cette histoire. Tout le monde l'adule, c'est le dieu du patin, c'est celui qui a réussi à faire progresser des patineurs jusqu'à des titres mondiaux. Donc bien entendu, pour des enfants de 7-10 ans, ça fait rêver. Et donc cette relation d'adulation va créer tout un contexte où on va lui faire confiance très rapidement. Il sait très bien parler, il convainc nos parents, il convainc les amis. C'est très vite devenu en fait un père adoptif.
Un confident.
Un confident, bien sûr. Puisque mes parents, je les voyais plus beaucoup. Donc il a vraiment une position...
Il est partout.
Omniprésente, ouais. En fait, dans mon quotidien. Il est à la fois la personne qui va m'aider pour les devoirs, qui va me véhiculer, qui va me préparer à manger, mon diététicien, nutritionniste, préparateur physique, entraîneur. Enfin, il a tous les postes dans ma vie, en fait.
Pendant combien de temps a-t-il abusé de vous ?
Pendant 4 ans et demi.
4 ans et demi.
Cet homme, il a détruit une grande partie de ma jeunesse.
Oui.
Mais maintenant, j'ai pas envie que ça empiète sur ma vie actuelle.
Oui.
Je pense que le plus dur est passé, on va dire.
Oui.
Et on va faire avancer les choses pour que... en espérant que ça change, que le monde se rende compte que ces prédateurs existent et que ça n'arrive pas que chez les autres.
C'est donc à l'âge de 8 ans que le futur entraîneur de Ludivine décide de la prendre sous son aile. Particulièrement douée, Ludivine enchaîne les stages et les compétitions et en 2010, à l'âge de 12 ans, elle obtient son premier titre de championne de France. L'homme qui entraîne déjà tout un groupe d'athlètes convainc progressivement les parents de Ludivine de l'orienter en sport-études et propose de l'héberger chez lui, à Paris, où il vit avec sa femme et ses deux enfants. Une opportunité que la petite fille et ses parents ont vécue comme une véritable chance.
À ce moment-là, je me sens effectivement privilégiée par le fait d'avoir accès à plein d'entraînements, le fait qu'ils passent énormément de temps sur moi pour m'apprendre la technique. Et ça va créer d'ailleurs un peu de jalousie en fait en arrivant sur Paris.
Ouais.
Je vais devenir la chouchoute aux yeux de tout le monde. et je vais être un peu écartée de ce groupe de patineurs et je vais me retrouver en fait un peu seule au monde avec lui en fait. Et je vais passer effectivement toutes mes journées et mes entraînements avec lui parce que je n'ai pas d'amis au patin et au contraire, on m'en fait voir un peu de toutes les couleurs sur la piste. Donc en fait, il va créer cette dépendance à lui. Et ce cocon ultra refermé. En fait, la stratégie, elle est dès le départ, on s'en rend pas compte, mais ils montent les patineurs les uns contre les autres pour qu'ils progressent, mais aussi pour cloisonner les dires de chacun.
Comment ils se comportent avec vous, précisément ?
Eh ben, d'une façon assez particulière et différente de ces athlètes, en fait.
D'accord.
En fait, il procure des massages qui sont, selon lui, des massages sportifs. Mmh. Effectivement, avec des entraînements, on a mal aux jambes quand on revient. Donc, il va masser les jambes, il va masser le dos. Et puis, effectivement, il va y avoir des massages déplacés qui vont aller toucher les parties intimes.
Ouais.
On trouve ça déplacé, mais en soi, c'est pas... En tout cas, dans notre esprit, c'est pas sexuel. Et à 12 ans, on ne voit pas à mal parce que c'est l'adulte. C'est lui l'adulte, c'est lui qui sait où sont les limites. Mais ça monte crescendo, en fait, on ne se rend pas compte. À 12 ans, clairement, j'étais ultra naïve parce que c'est aussi dans mon éducation. Enfin, j'ai jamais refusé quoi que ce soit. Et quand on me dit de faire quelque chose, je suis un peu bête et disciplinée et je vais le faire. Et il va commencer effectivement à me toucher les parties, à demander que ce soit réciproque, à m'éduquer en fait sexuellement. Et puis, le jour de l'anniversaire de mes 13 ans, il fait son massage comme d'habitude et il me dit j'ai un cadeau pour toi, je te promets ça va pas faire mal. Et il va me violer pour la première fois. Et cette nuit-là, en fait, même si j'arrivais pas à mettre des mots sur ce qui m'arrivait, j'ai tout de suite compris que ça allait pas. J'ai pleuré toute la nuit alors que je savais pas vraiment pourquoi, en tout cas, je savais pas le décrire. Et puis je reprends mon quotidien extrêmement rapidement. Enfin, je fais rien paraître et j'attends que ça passe. Sauf que ça va recommencer en pire. J'ai essayé plusieurs fois de refuser ce qu'il me demandait. À chaque fois que je vais lui refuser quelque chose, je vais en payer les pots cassés pendant une, deux, trois journées jusqu'à ce que je dise oui. Je m'en prends plein la tête toute la journée. Et ça, c'est un cercle vicieux. Il va se révéler violent, méchant. Et c'est là que toute la violence psychologique, en fait, va être insoutenable. Et pour se faire pardonner, on va être obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est reparti pour un tour.
Vous en venez à me dire, je le protégeais. Pourquoi vous le protégiez? Pourquoi vous ne disiez rien?
Parce qu'en fait, il représentait tout. Je ne me voyais pas être entraînée par une autre personne parce que pour moi, c'était le plus compétent. Je ne me voyais pas arrêter le patin. Et il était tellement central dans ma vie que de dévoiler cette histoire allait être un rebondissement énorme dans sa vie, mais surtout dans la mienne.
Ouais.
Faudrait que je raconte tout aussi à mes parents, faudrait que je raconte tout au monde entier, limite. Et ça paraît une montagne, en fait. Et du coup, on fait ce qu'il a demandé.
Quel souvenir vous gardez de vous tout au long de ces années ?
J'ai tendance à dire que j'étais devenue sa chose. Il faisait ce qu'il voulait de moi. On capitule parce qu'on ne peut pas faire marche arrière et qu'on ne voit pas comment s'en sortir.
Plus de cela, Ludivine sait que la parole d'une adolescente de 13 ans ne pèserait pas lourd face à celle d'un homme respecté par toute la profession. Pour preuve, à la même époque, Cynthia, une autre jeune patineuse de 14 ans, accuse l'entraîneur d'agression sexuelle. Une information judiciaire est alors ouverte, mais pour prouver son innocence, l'homme est prêt à tout.
Ça a été l'une de ses chouchoutes, c'était la chouchoute juste avant moi en fait. Ouais. Et il me dit tout de suite de toute façon qu'il ne s'est rien passé, que c'est une histoire de jalousie entre elle et moi. C'est parce qu'il ne l'entraînait plus qu'elle porte plainte, que c'est une menteuse et qu'il ne faut pas la croire. Et c'est ce qu'il va dire à tout le monde et c'est comme ça que tout le monde va le croire lui et pas ce que dit Cynthia.
Du coup, cette jeune patineuse... elle porte plainte, donc c'est instruit. Vous avez été interrogée par la police ?
J'ai menti. J'avais été préparée avec tout un tas de questions qu'il avait imaginées. Il m'avait fait répéter des réponses, même des réactions émotionnelles, etc., en rigolant, en disant « mais c'est du grand n'importe quoi ». Il envisageait la possibilité que j'ai un examen gynécologique, donc il me l'explique. Et il me dit qu'il faut que je puisse avoir des témoins qui, autres que lui, qui confirment avoir eu des rapports sexuels avec moi pour valider en fait, le fait que je ne sois plus vierge. Et donc il va organiser une rencontre avec plusieurs hommes au sein de son domicile. Et donc je vais avoir... Je vais avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes pour le protéger.
Vous le faites pour lui, ça ?
En fait, il va se mettre dans une position de victime en disant « Mais qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que j'aille en prison ? Tu ne pourras pas devenir la championne. Tu devras tout raconter à tes parents. Tu n'auras plus le même mode de vie. Enfin, tu n'auras plus rien. » Et à ce moment-là, il vous fait comprendre que de toute façon, sans lui, vous n'êtes plus rien, vous êtes une merde.
Vous allez tout perdre.
Et ouais, à ce moment-là, vous pouvez tout perdre.
Faute de preuves, l'information judiciaire est refermée. L'homme n'est pas mis en examen, mais fait l'objet d'une sanction administrative qui lui interdit d'exercer son métier auprès de mineurs. Pourtant, quelques mois plus tard, il parvient à se faire nommer directeur de l'équipe nationale de Belgique, et emmène avec lui Ludivine. La jeune fille a alors 17 ans, et elle est totalement sous l'emprise de son entraîneur. Celui-ci vient de se séparer de sa femme, et vit désormais à Bruxelles, seul avec sa victime.
Ça va être les 6 mois les plus difficiles, parce que je n'aurai pas de moment de répit en fait. Je deviens la femme de ménage, son élève, son assistante, sa secrétaire, la cuisinière, tout à la fois jusqu'à l'esclave sexuel, hein, parce qu'il m'emmène dans des boîtes libertines, parce qu'il n'y a plus de limite en fait. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Et je vais me rendre compte au fur et à mesure des semaines que je n'ai plus le choix de rien. Et je prends peur, en fait. Au mois de janvier, février, j'ai peur parce que je ne sais pas ce que je vais devenir.
Même si Ludivine continue de donner le change auprès de sa famille, ses parents comprennent qu'elle va très mal. Inquiet, il s'adresse à la femme de son entraîneur pour essayer d'en savoir un peu plus. En apprenant que celle-ci a quitté son mari et qu'elle nourrit de graves soupçons sur ce qui se passe en Belgique, il décide d'intervenir. Sans prévenir Ludivine, il se rend au domicile de son entraîneur.
Quand on est monté dans l'appartement, donc c'est mon fils qui a sonné et qui a dialogué, qui a parlé à sa sœur.
Ça a duré 2 minutes.
À peine il ouvre la porte, il me dit « Ludivine, t'es en danger, on part ». C'est les seuls mots qu'il va me dire.
Ouais.
À ce moment-là, en fait, moi je pleure parce que je sens que tout s'effondre autour de moi. Les questions que je m'étais posées en fait sur qu'est-ce que je vais faire sans lui. Et puis, En soi, je suis avec mes parents. Ils me disent que ça se trouve, je vais revenir et je vais pouvoir repatiner, etc. Donc, ils ne me mettent pas dans une situation où j'ai plus d'avenir.
Où est-il, votre ex-entraîneur, à ce moment-là?
Il n'était pas là. Il était en formation.
Ouais.
Et on va faire mes valises et on va partir, en fait, en l'espace d'une heure.
Ouais. D'ailleurs, il y a un détail qui montre combien il est... dans une autre dimension, est-ce que vous allez vous apercevoir qu'il a porté plainte pour enlèvement?
Il va en fait appeler la police,
ouais,
et dire que mes parents m'ont kidnappé.
Ce qui provoque tout de même l'arrivée de la police le soir même chez vous. Si
tout à fait.
Ouais. Le dimanche soir.
Le dimanche, on est arrivé à 10h30 chez nous. À 11h, ça sonnait à la porte.
Et alors?
Gendarmerie.
On vient voir si... On vient prendre des nouvelles de votre fille.
Et je vais décider, en fait, d'aller porter plainte tout de suite, de pas attendre. La première journée, je vais rester 7 heures avec le policier, donc toute la journée. Et je vais y retourner tous les jours pendant presque une semaine. Parce qu'il y a des nouveaux éléments qui me reviennent. Il y a aussi de nouveaux éléments qui arrivent, parce que je reçois des lettres, je reçois des colis.
De lui,
je reçois des mails, des messages.
Qui disent quoi?
Il est follement amoureux, qu'il s'excuse s'il a fait des erreurs, qu'il aurait dû prévenir mes parents, qu'il faut le croire, qu'il comprend pas pourquoi je vais à la police, que mes parents m'ont monté la tête, et qu'il y a que lui, encore une fois. Et je prends peur parce qu'on devient un peu paranoïaque. Ouais. On se rend compte que les portails s'ouvrent pendant la journée. On se rend compte qu'il y a des traces de pas dans le jardin. Et on va se rendre compte très rapidement qu'il a également embauché des détectives privés. Donc ça va être vraiment un contexte très particulier. Pour autant, il faut continuer à vivre. Et je vais reprendre les cours. Et le deuxième jour, je crois, des cours, mon entraîneur rentre dans l'enceinte du lycée, me tape sur l'épaule et me donne une lettre. Et moi, la seule chose que j'ai dit à ce moment-là, c'est « je veux pas, 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 je veux pas ». Et pendant 5 minutes, je crois, je répète cette phrase « je veux pas l'écouter ». Et au moment où je cours vers le secrétariat pour alerter la police, il part et j'appelle les policiers.
Donc, il va être arrêté, hein, suite à cette venue dans votre lycée.
Oui.
Quand est-ce que vous réalisez que tout ce qui vient de vous arriver n'est pas normal?
Je m'en rends compte quand je vais tout dire à la police, parce qu'en fait, on met des mots à ce moment-là que j'avais jamais entendu, jamais prononcé.
Oui.
Les termes d'agression sexuelle, les termes de viol... Mais le fait de porter plainte et le fait de tout dire, ça va être vraiment une libération, comme un poids qui s'en va.
Oui.
Et au fur et à mesure que je l'explique, je vais me rendre compte de comment j'ai été manipulée et je vais prendre beaucoup de recul, en fait, par rapport à ce qui m'est arrivé.
Mais vous, parents, est-ce qu'on éprouve de la culpabilité après, ensuite, lorsqu'on découvre qu'on a été manipulé?
On est obligé d'accepter, hein. Même si ça nous empoisonne toujours, hein. Même si on a toujours du remords à l'avoir laissé partir. Il y a toujours cette culpabilité de l'avoir laissé partir, quoi. Mm-hmm. On s'en voudra toujours.
Tout n'est pas terminé, parce que malheureusement, il y a quand même des souvenirs qui vont rester là très très longtemps,
oui.
Des souffrances. Mais on l'a récupérée, elle est avec nous, elle vit en famille avec nous.
Une vie normale.
Bon, j'espère que elle aura une vie future normale et qu'elle sera heureuse.
Mm-hmm. En décembre 2018, après 3 ans de détention provisoire, l'entraîneur de Ludivine est enfin jugé. Pour mettre fin au secret qui entourait les agissements de cet homme, Ludivine a contacté de nombreuses patineuses qui ont décidé de parler à leur tour.
Finalement, arrivé au procès, la première patineuse se présente, raconte son histoire. Et la deuxième arrive, la troisième, la quatrième, la cinquième.
Toutes victimes de cet homme.
Toutes victimes de cet homme, de l'agression au viol. Et il avoue. Et il y a une réponse du coup qui reste gravée. C'est l'avocat général qui lui demande on peut s'attendre à combien de victimes encore? Et il répond je ne saurais les compter.
Au bout de 6 jours d'audience, cet homme a été condamné à 13 ans de prison pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, interdiction d'exercer le moindre métier ayant rapport avec des mineurs et une obligation de soins. Comment est-ce que vous avez vécu l'annonce de cette peine ?
J'ai été soulagée. Le fait qu'il soit mis hors d'état de nuire me permet de reprendre une vie normale de jeune femme. Ça me permet de reprendre mes cours sans penser à cette histoire. Donc oui, c'est important.
Oui. Le roller, ça devient quoi dans tout ça, à ce moment-là ?
Je vais arrêter pendant plusieurs mois, prendre 25 kilos.
25 kilos ?
Oui, en l'espace d'un ou deux mois. Ça a été très difficile parce qu'il a fallu changer d'entraîneur, parce que j'avais plus vraiment confiance dans les hommes et cette relation-là a toujours été difficile. Mais j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur très compréhensif. Et la même année, je participe de nouveau à un championnat d'Europe avec les couleurs de la France sur mon dos. Ouais. Ça a été très important pour moi parce que c'était un peu comme une revanche. J'ai eu beaucoup de messages de soutien après, alors pas directement après ma plainte, mais avec les différentes médiatisations que j'ai faites. D'un soutien particulier parce que la plupart connaissaient cet entraîneur. Il y a eu des changements au sein de la fédération et on a pris un peu la mesure de l'omerta qui a pu y régner pendant toutes ces années. Donc au final, cette histoire a permis de faire le bien en fait dans ce petit monde du roller artistique.
Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui, Divine ?
C'est ma liberté, on va dire. C'est la liberté retrouvée de pouvoir voir sa famille quand on le souhaite, de pouvoir continuer dans le roller artistique, de pouvoir choisir et étudier comme je le veux. C'est pouvoir faire ce que je veux, dire ce que je veux, sans que personne puisse me contrôler.
Mille merci d'avoir eu le courage de livrer votre histoire. Portez-vous bien.
Merci.
Et puis bon entraînement.
Merci.
Au revoir.
Deux ans seulement après avoir fui la Belgique, Ludivine est redevenue championne de France, une véritable performance au regard des épreuves qu'elle a traversées. Sa force de caractère et son courage m'ont impressionné, même si je sais qu'il lui faudra encore du temps pour se reconstruire et pouvoir de nouveau faire confiance aux hommes. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Daviau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.